Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite. Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Commerce Élite, présenté par l'agence Pure Commerce. Mon nom est Antoine Gagné et mon objectif est de vous aider à bâtir un commerce élite. Et cette semaine, j'ai la chance de recevoir Martin Aubut, qui fut derrière la transformation numérique de L'Oréal. On a donc un pionnier du e-commerce avec nous qui vient nous révéler les coulisses d'une transformation totalement réussie. Bonne écoute! Bienvenue à tous au volet nouvelle du podcast Commerce Élite. Aujourd'hui, on veut vous partager un test AB qu'on a fait avec notre équipe chez Pure Commerce récemment concernant le volet emailing. Donc, on voulait voir comment optimiser nos taux d'ouverture email. On a donc testé deux types d'objets email. Le premier, axé sur le gain. Donc, par exemple, 15% de rabais pour vous aider. Et le second, axé sur l'urgence. Par exemple, 24 heures, 15% de rabais. Et voilà ce qu'on a découvert. Dans l'ensemble, on a vu une légère baisse du taux d'ouverture moyen de 1,81%. Mais attention, ce chiffre cache des variations plus grandes. Dans certains cas, on a vu un gain de 7,83% et dans d'autres, une baisse de 11,48%. Ça nous rappelle l'importance de tester en permanence pour voir ce qui marche le mieux pour votre public et surtout pour votre catégorie. On a fait ces tests principalement sur des séquences email de bienvenue et d'abandon de panier et on a remarqué que les objets axés sur le gain ont tendance à mieux fonctionner. Peut-être que les contacts ont besoin de plus d'informations sur votre marque, vos produits, avant de réagir à une offre urgente. Mais n'oubliez pas, chaque audience est unique. Il faut continuer à tester différents types d'objets d'email et c'est la clé pour maximiser leur impact. L'objet de votre email, c'est l'élément le plus important. Il faut donc le tester régulièrement. Maintenant, c'est à votre tour de tester. Révolutionner une des plus grandes marques au monde n'est pas quelque chose de simple. On doit avoir du courage, de la vision et surtout une bonne équipe pour exécuter le projet. Martin Aubut, présentement CMO de Nesto et anciennement chef des opérations digitales chez L'Oréal, nous explique comment il a réussi à transformer la populaire marque de beauté en champion du e-commerce. Bonne écoute! Donc, on est retour au volet discussion du podcast Commerce Élite et on est avec Martin Aubut aujourd'hui, CMO chez Nesto, une entreprise fintech qui offre aux consommateurs canadiens l'hypothèque la moins chère garantie. Et avant son rôle chez Nesto, Martin fut chargé de la transformation numérique chez L'Oréal Canada en étant chef des opérations digitales. Martin Aubut, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Merci Antoine, c'est un plaisir de faire partie de ta balado, là, que je suis un fervent auditeur.
Mais je suis content de l'entendre, Martin. Et dis-moi, avant de parler croissance et marketing, parce que ça va être ça l'objectif aujourd'hui, au vu de tes connaissances et surtout ton expérience dans le milieu, est-ce que tu pourrais nous dire, au moment où on se parle, à août 2023, ça ressemble à quoi le quotidien de Martin Aubut, CMO chez Nesto?
Oui, c'est ce qui est difficile, c'est de faire une réponse courte là, à ça. Donc, Nesto, premièrement, là, tu l'as bien mentionné, là, on essaie d'offrir une expérience de financement hypothécaire positive, transparent, simplifié du début à la fin. Puis, je vais juste bien mettre le contexte. Puis, tout ça peut se faire en ligne. Puis, il y a des conseillers qui peuvent vous aider. Puis, notre position, là, tu l'as dit tantôt, offrir le meilleur taux hypothécaire du premier coup garanti et ça très rapidement. Donc, ça nous permet que la technologie, quelqu'un va acheter une maison renouvelée, ça peut se faire très rapidement et vous n'avez pas besoin d'aller dans les banques et prendre votre voiture, tout peut se faire en ligne. Donc voilà, je vais bien le positionner pour que les gens comprennent c'est quoi Nesto. J'ai ici aussi le swag, là. Et maintenant, qu'est-ce que ressemble ma journée chez Nesto? Donc, Jacques comme CMO ou en français le chef du marketing. Donc, c'est tout ce qui a rapport au marketing dans l'organisation. C'est une start-up, donc moi, j'ai vécu les grandes entreprises et là, ici, on est dans un mode start-up. Donc, je fais beaucoup de choses. Plus que des fois, j'aimerais en faire, mais c'est la beauté de la chose. Donc, je m'occupe de la gestion des stratégies opérations marketing au niveau du B2C, donc du business au consommateur pour Nesto, mais on a aussi un bras B2B. Donc, avec, on l'appelle le Mortgage Cloud pour l'instant, là, c'est assez nouveau. Donc, il y a des banques et des institutions financières qui utilisent Nesto pour faire leur hypothèque. Donc, c'est dans un mode marque blanche. Donc, il y a une notion B2B. Et aussi, on vient de partir d'une compagnie média là, qui s'appelle Brightwise Media, là, où on vend des leads qualifiés pour les services financiers, que ce soit quelqu'un en assurance, en immobilier, en hypothèque, bien sûr. On a des leads, on a une machine pour pouvoir vous revendre des leads. Donc, l'expertise de Nesto peut être offerte à nos compétiteurs. Hein? C'est ça l'idée. Donc, je peux t'en parler plus tard. C'est quand même contre-intuitif comme stratégie, mais c'est quelque chose qui, dans un mode où il faut que tu traverses la profitabilité, devient très intéressant. Donc, puis les grands morceaux là, de tout travail, c'est le marketing de marque, l'expérience consommateur, la croissance, donc l'acquisition des leads, des opportunités, l'engagement avec le marketing relationnel, donc tout ce qui est le marketing automatisé via le courriel, les SMS, les notifications, et par la suite, le volet innovation, donc tout ce qui est intelligence artificielle. On a des trucs assez intéressants qu'on fait actuellement, qu'on teste. Puis aussi bâtir la compagnie Brightwise Media. Donc, c'est ce que je fais dans mon quotidien. Là, j'essaie de naviguer à travers ces différents pôles-là. Puis mon équipe est structurée où j'ai des leaders par les différentes unités que j'ai te mentionnées. On est 14 dans l'équipe actuellement. On a nos développeurs aussi front-end qui sont avec nous dans l'équipe marketing. Que j'ai découvert en faisant les choses, que si tu veux être un bon marketeur, tu vas avoir des bons codeurs aussi et tu dois ça doit être fluide. Donc, j'ai en tout temps, même chez L'Oréal, on a pris les équipes de développement front-end, dans le meilleur cas, back-end aussi, pour être indépendant, être capable de faire ta conversion, de bien contrôler ton expérience. Donc, voilà, c'était, je te l'avais dit, c'était pas une réponse courte, mais c'est ce qui se passe dans ma vie à tous les jours de naviguer à travers ces différents.
Ben, je pense que c'est important de le dire pour que notre audience soit capable de voir un peu ton pédigré. Et parlant de pédigré, tu as eu des expériences assez fascinantes également dans le passé. Donc, je les nomme directeur général de Réseau Contact en 2005, vice-président digital chez l'agence Avance, directeur du volet Social Commerce chez Pajon, chef des opérations digitales chez L'Oréal, et on va en parler beaucoup, et vice-président marketing et e-commerce chez Cogeco. Donc, les gens qui écoutent le podcast, qui sont en commerce électronique, commerce en ligne aujourd'hui, on peut le voir, on a un invité qui a travaillé beaucoup là-dedans. À quel moment de ta carrière tu t'es dit que tu voulais vraiment opérer dans le monde e-commerce et marketing numérique? Parce qu'à un certain point, j'ai l'impression, si on regarde là, toutes tes expériences, tu as pas mal toujours navigué dans le commerce en ligne et la commercialisation.
Oui, comme on pourrait dire, je suis un vieux de la vieille. Là. Ça fait 25 ans là, que je fais des affaires en tant qu'entrepreneur, intrapreneur et aussi dans les grandes corporations. Donc, au début, j'ai commencé chez... j'avais fait un stage chez Québectel. Imagine, c'était là, ça a acheté. Là. Après, là, c'était à Rimouski. J'avais commencé, là, on faisait des stratégies de segmentation, on commençait à comprendre la donnée, tout ça. Mais c'était encore quand même assez traditionnel. Et par la suite, j'ai été actionnaire d'une compagnie de logiciels comptables qu'on a vendu après ça à CogniCase, qui était vendu à CGI, qui était vendu à Bell. Donc, j'ai eu la chance de faire du B2B, commencé à comprendre les systèmes CRM. J'avais commencé une maîtrise en gestion de data à l'époque. Là, c'était pas comme maintenant. Là. Donc, ça m'intéressait tout ça, mais c'était pas une pratique qui était claire. Et quand je suis arrivé en 2005 là, dans le cadre de Réseau Contact, donc il y a 18 ans, là, imaginez, là, c'était un autre monde. Là, c'était un peu e-commerce. Réseau Contact, c'est le Tinder de votre temps. Là. Puis, à mon temps, c'était le premier site de rencontre au Canada. Il y avait personne d'autre que nous, même au Canada anglais, français. Et pour la petite histoire, on avait créé un LinkedIn. Hein. On pensait que c'était Réseau Rencontre, ça allait être un LinkedIn. Mais c'est devenu en pivotant. Donc, en tant qu'entrepreneur, tu dois voir comment travailler. Mais un LinkedIn, c'est très proche d'un réseau de rencontre. C'est deux sets de données avec un engin de recherche, des outils de communication entre les deux. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plus d'argent à faire où les gens voulaient rencontrer des gens sur Internet. Et à l'époque, c'était quasiment mal vu. C'était très nouveau. C'était les gens qui rencontrent sur Internet, c'est des gens qui sont mal pris. Mais on a réussi à faire un des plus grands sites de rencontres. Ça a été vendu à Québécois. Et c'était un peu e-commerce. Hein. C'était l'acquisition de faire acquérir plus de filles. C'était comme un peu la notion des bars, plus de filles pour amener des gars. Donc, on avait notre notion de coût d'acquisition. Il fallait attirer l'attention, la considération, la conversion, la rétention de nos clients. Donc, c'était la vraie gestion d'un produit Internet. Hein. C'était pur Internet, c'est nouveau, le service clientèle aussi, modération de la communauté. Hein. C'est une grosse communauté. Là. Il y avait des millions de personnes en même temps là, sur Réseau Contact. Puis, ce qui me fascinait par rapport à ça, c'était la disponibilité des données. Donc, on gérait en temps réel hein, chez Réseau Contact. Puis, beaucoup de compagnies ne le font pas encore. Mais à l'époque, nous, on avait nos propres tableaux de bord et on voyait, bon, c'est quoi mes coûts d'acquisition, j'en ai combien de nouveaux inscrits, combien qui ont converti en membres payants. Et on avait ça en temps réel. C'était quand même assez innovant. Puis c'est là que j'ai vu, j'aime beaucoup ça parce que, un, ça ne te prend pas tant d'individus que ça, ça te prend des codeurs, mais tu peux gérer totalement, c'est virtuel ton modèle d'affaires. Donc, tu n'as pas d'inventaire à gérer, etc. Donc, ça me plaisait beaucoup en tant qu'entrepreneur. Puis, l'innovation technologique était très rapide. On créait ça en PHP, c'est des plateformes ouvertes. Donc, les idées, on pouvait rapidement partir d'une idée et le livrer. C'est ce qui me fascinait dans le marketing digital, à la gestion de produits basés sur Internet. Puis, il y avait des opportunités qui étaient incroyables. C'était le premier réseau social, en fait, au Québec et au Canada. Réseau Contact, c'était Flirt au Canada anglais. Les gens se rencontraient, on avait des forums. À l'époque, c'était fort les forums. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas MySpace. Donc, c'est ce qu'on a créé. Puis, j'adorais la logique d'une idée à la réalisation pouvait se faire très rapidement. Et en allant chercher le feedback loop du consommateur en temps réel, ça m'a toujours stimulé. Je suis tombé en amour avec ça. Puis, j'ai fait ça toute ma vie dans des grandes et dans des startups. Voilà.
Et j'aimerais en parler un petit peu avec toi, surtout ton expérience chez L'Oréal, une marque que tout le monde connaît, une marque que tout le monde a peut-être, sans même le savoir, utilisé et consommé dans sa vie, parce que L'Oréal, soyons honnêtes, c'est excessivement gros. Bon, tu me disais dans des discussions préalables qu'on a eues ensemble, Martin, qu'avant ton arrivée, donc on va situer les gens, tu es arrivé là-bas, si je ne me trompe pas, en 2016. La présence en ligne de L'Oréal avant 2016, pour des raisons évidentes, ce n'est pas du tout ce que c'est aujourd'hui, mais je pense que c'était même très loin de ce que c'est aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous ramener un petit peu à ces années et nous dire, toi, au final, quel diagnostic que tu as fait de la situation?
Oui, très bonne question. Ça me ramène vraiment en arrière où j'aurais sûrement un petit peu plus de cheveux. Mais je pense que c'était 2011, même si je ne me trompe pas. Beaucoup de choses s'est passé depuis ça, mais j'ai resté quand même dans cette organisation-là 8 ans. Une organisation que j'ai trouvée fantastique parce que je vais donner un contexte qui va peut-être intéresser tes auditeurs. C'est les gens changent. Puis ça, j'ai fait beaucoup de transformations. Je fais de Cogeco. Donc, je m'y connais assez. Puis les gens changent pour deux raisons. Soit que ça fait mal. Donc, exemple, tu ne réussis plus à atteindre tes objectifs financiers. Ce que tu faisais avant ne fonctionne pas. Ou il y a quelque chose de tellement beau là que tu vois au loin que tu as le goût d'y aller. Donc, à bord, c'est souvent comme ça. Tu provoques le changement. Mais souvent, les entreprises vont changer quand ça fait mal. Là, dans ce cas-ci, j'ai vécu les deux. Mais chez L'Oréal, il y avait un dicton qui disait toujours « saisir ce qui commence ». OK? Donc, je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, ils sont venus me chercher. J'étais un gars, de tech, marketing digital, un peu un growth hacker en français. Puis, que je connaissais zéro dans la beauté. Mais le CEO du temps, M. Javier San Juan, voyait que ses investissements en télé, ses investissements en réseaux de distribution ne ramenaient plus autant que les ratios auparavant. Donc, en tant qu'innovateur, en tant que visionnaire, il voyait quelque chose au loin. Donc, il m'a engagé et j'avais carte blanche. Et c'était dites-moi, c'est quoi le futur? Comment qu'on va être, on va saisir ce qui commence et on va être les meilleurs? Il dit, c'est peut-être le e-commerce, c'est peut-être le marketing en ligne, voilà. Donc, j'ai décidé d'accepter le travail parce que je suis un intrapreneur dans ce cas-ci. Et L'Oréal, le modèle, c'est un modèle de B2C à ce moment-là. Donc, L'Oréal, c'est 38 marques, hein, des grandes marques comme au niveau masse, qu'on appelle, comment c'est divisé, c'était la masse, L'Oréal Paris, Maybelline, Garnier SC, des marques de luxe comme Lancôme, Kiehl's, Biotherm, Urban Decay. Et ensuite, on appelle ça cosmétique active, avec La Roche-Posay, plus les trucs pour la peau, là, La Roche-Posay, SkinCeuticals, etc. Et il y a aussi les produits vendus dans le B2B chez les coiffeurs. Donc, Redken, Kérastase, etc. Donc, la majorité de cette compagnie est gérée via du B2B, des réseaux de distribution. Les produits de masse sont vendus chez Walmart, chez Pharmaprix, les produits de luxe chez Labbé, chez Magasin Rayon, etc. Donc, qu'est-ce que faisait L'Oréal? Elle investissait dans le média traditionnel, le magazine, le PR, la télé, beaucoup de télé. Et par la suite, pour stimuler les gens à aller dans les canaux de distribution. Donc, à la fin, L'Oréal ne connaissait pas ses clients. faisait de la recherche, mais il n'y avait pas de first party data ou la donnée que le consommateur lui donnait à lui-même. C'était les réseaux de distribution qui avaient le pouvoir. Et à ce moment-là, donc, moi, ce que j'ai vu, c'était avec les équipes, j'ai vu que le e-commerce devenait de plus en plus fort. Amazon était même pas au Canada, là, mais Amazon devenait encore plus fort. Les grands magasins comme l'Abbé, etc., commençaient à faire du e-commerce. Et surtout que les technologies nous permettaient d'acquérir la donnée, la traiter et être capable par la suite de faire du marketing en mode programmatique et mieux ciblé. OK? Donc l'idée, c'était, on a une problématique sur l'expérience client. Quelle serait l'expérience client dans un mode où le client peut acheter dans le canal de choix? Donc, on parle d'omnicanal. À l'époque, c'était nouveau. Là, nous, on a commencé à ouvrir des boutiques. Donc, des boutiques directes. Kiehl's avait sa boutique. Urban Decay avait des boutiques, des magasins physiques. Et c'était un média aussi dans des grands espaces urbains. Et par la suite, on a commencé à lancer du e-commerce directement. Donc, Lancôme, si vous allez chez Lancôme.ca, vous allez sur Kiehl's, Biotherm, vous allez avoir des boutiques en ligne. Et si vous allez, par la suite, vous voulez trouver L'Oréal Paris, etc., vous allez le trouver sur Amazon, sur Walmart en ligne. On appelait ça des e-retailers. Et par la suite, des pure players, c'était nous, nos sites. Donc, on a développé près d'une quinzaine de sites en D2C e-commerce luxe. Et par la suite, on a développé les canaux de distribution via Amazon, via Walmart, etc. Et on avait trois marques aux États-Unis. Donc, il y avait des marques comme Biotherm, qui sont seulement vendues aux États-Unis. C'est nous qui gérons le e-commerce au Canada. Donc, ça a nourri les revenus nécessaires pour pouvoir développer les 38 plateformes, les 15 plateformes plus les plateformes de marketing via Amazon. Puis, donc, on est parti de zéro là, à développer les plateformes, acquérir les bons talents, parce que c'est des différents talents que L'Oréal, c'est des différents types de marketeurs, des gens de données, des gens de performance marketing comme toi, là. Au niveau des achats médias sur Facebook. Mais même à l'époque, Facebook, il n'y avait pas le média organique. Et donc, on est parti d'une compagnie de B2B à B2C qui avait un contact avec 50 % de ses clients en un à un. C'est-à-dire que je pouvais envoyer un email, je pouvais envoyer un SMS, je pouvais faire de la programmatique, faire du remarketing en utilisant mes propres données. Donc, je n'étais pas dépendant de tous les gros joueurs. Et nous avions un rapport de force via les distributeurs aussi, où maintenant nous étions capables de comprendre nos consommateurs et d'offrir ce que les consommateurs veulent dans la plateforme de leur choix. Donc, c'était un peu omnicanal, voilà, stratégie.
Puis, effectivement, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait plus tôt, t'es arrivé en 2011 chez L'Oréal. Je suis allé retourner voir mes notes, mais tu es devenu chef des opérations digitales en 2016. Et moi, j'aimerais savoir, là, L'Oréal, c'est immense. Tu as sûrement dû travailler avec des budgets que peut-être que tu ne pourras plus nécessairement retravailler dans ta vie parce que ça fait partie des plus grandes marques au monde. Avec du recul et tout ce qui a été fait pendant tes 7-8 années là-bas, qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier? Parce qu'il y en a beaucoup de choses, j'imagine, que vous avez mis en place. Certaines choses qui ont peut-être dû rester, certaines choses qui, à force du temps, sont parties. Avec du recul, qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier chez L'Oréal?
Ouais, bonne question. Je réfléchis, il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses en 8 ans. Là, mais je commencerai, je pense, le premier, c'est... moi, j'ai un patois en anglais qui dit « go big or go home ». Donc, chez L'Oréal, on est allé all-in. Donc, on n'a pas fait de demi-mesure. Une transformation, tu piles sur les pieds de tout le monde. Donc, je peux vous dire, là, je l'ai fait chez Cogeco, chez L'Oréal, de grandes entreprises. Puis, donc, en me disant ça, je me suis dit, il ne faut pas y aller à moitié, il faut y aller d'une façon électrochoc. Même, je suis en train d'écrire un livre avec ma conjointe, ça s'appelle Electrochoc, c'est Transform While You Perform. Comment tu fais pour transformer et performer en même temps? À court terme, parce que les gens ne croiront pas si tu ne performes pas à court terme. Ça prend toujours ton hockey stick. Donc, go big or go home, on a internalisé les fonctions à l'interne pour accélérer le développement, pour avoir le contrôle sur la plateforme et capable de distribuer tout ce qu'on créait, on pouvait distribuer sur toutes les marques. Donc, on appelle ça un SaaS. C'était développé en service. Donc, je développais un service de reviews. Ben, tous les marques pouvaient l'avoir. Je faisais des changements sur mon cart. Toutes les cartes de toutes les marques pouvaient l'avoir. Donc, je trouve que c'était assez ingénieux. On est allé à fond. J'ai développé avec des développeurs en Roumanie pour que ça coûte pas trop cher, pour que ça soit efficace. Donc, on est vraiment été go big or go home. Donc, je suis très fier de ça. Le deuxième point, ce serait les équipes. Moi, je suis toujours talent et success. Là, il fallait réussir à convaincre les ressources humaines que c'était plus les mêmes types de personnes qu'on a embauchées. On devait embaucher plus des geeks, G-E-E-K, là. Donc, des gens qui comprenaient la donnée, comprenaient les fondements de conversion. C'est très mathématique, hein, ce qu'on fait notre métier de plus en plus. Ils comprennent aussi la marque. Donc, le recrutement des gens avec des super attitudes, des gens de croissance, qui aiment travailler, bâtir la chose. Donc, à la fin, on était peut-être 90 employés là, sous le CDO, donc le Chief Digital Officer, là, qui était mon rôle. Mais les tiers de ressources étaient souvent en dotted line avec les marques. Donc, on développait l'e-commerce quand il était rentable, on renvoyait, on entraînait les ressources et on renvoyait vers la marque. Parce que chez L'Oréal, chaque marque est un P&L, donc est une entreprise. Donc, on a créé comme des systèmes horizontaux, des expertises. Puis quand on développait le site, on bâtissait, ça fonctionnait, on ramenait ça dans les marques. Donc, à la fin, on avait juste un cœur d'expertise, l'intelligence artificielle, la data, le média. Et la gestion des marques en e-commerce était dans les marques. Donc ça, c'était quand même une bonne façon de faire. Puis on a décidé de prendre les P&L du e-commerce. Donc ça nous a permis d'être des vrais entrepreneurs dans l'organisation. Beaucoup de changements, c'était très, très difficile au niveau humain. Mais ça, je suis très fier de l'avoir fait. Puis le troisième point, je te dirais, c'est Montréal est devenu un hub d'innovation pendant ma gouvernance. Et on était les pionniers dans plusieurs choses. Donc dans les systèmes, au niveau de la... On a décidé d'internaliser même la gestion des médias programmatiques. Donc on avait un programmatic desk in-house. On tradait notre média en utilisant nos first-party data, nos informations de clients. On était super efficace, donc on était capable de réduire notre coût d'acquisition et toujours être capable de réinvestir en marque. Donc, la notion là, de cycle, OK, donc tu sauves de l'argent, tu peux le réinvestir en croissance, en marque, en branding. Donc, c'était quand même un modèle qui fonctionnait bien. On est très fiers de l'avoir fait avec des gens qui étaient extraordinaires. Donc,
et bon, ça m'amène à un point que j'aimerais discuter un petit peu avec toi, ton rôle aujourd'hui, Nesto. On n'est pas nécessairement dans le pur e-commerce comme on pouvait l'être avec les autres marques chez L'Oréal, mais tout de même, c'est une expérience en ligne de A à Z, une expérience qui est assez intéressante. Et ce que je trouve donc fascinant avec Nesto, c'est que dans les dernières années, on vous a beaucoup vu à la télévision. Et toi, qui es une personne de marketing numérique, mais globalement qui est quelqu'un de marketing, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir mettre Nesto autant à la télévision? Parce que j'imagine que tu étais derrière ces initiatives.
Oui. Donc, bonne question. Puis, je vais te parler de ce que je peux dire. C'est, je vais te donner la petite histoire. En deux, faut remettre le contexte. Okay? On n'est pas dans le même contexte que maintenant. À l'époque, il y a eu la COVID. Il y avait le Canadien qui était en play-off. Tu vas comprendre. il y avait les gens qui voulaient sortir de la ville. Les taux d'intérêt étaient, je me souviens avoir fait une pub à 0,7% des taux d'intérêt sur variable. Là, maintenant, je pense que c'est à 5,4. Donc, on est dans un autre mode. Fait que Nesto, nouvelle entreprise, il y a une vague qui se passe. Puis, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est l'hypothèque, là, c'est les banques qui font ça. Puis, il y a quelques broker. Donc, c'est une notion de crédibilité. Hein? C'est comment tu réussis à une start-up qui est en ligne, qui c'est nouveau, à devenir crédible et que les gens décident de te considérer. Hein? Donc, c'est une notion d'awareness et d'amener ton nouveau positionnement. Et la télé, je pense, à ce moment-là, était un super médium pour le faire, pour rapidement pénétrer et gagner des parts de marché au Québec et en Ontario dans un moment où tout le monde voulait manger du gâteau au chocolat. Puis nous, on avait du gâteau au chocolat. Donc, la pub télé, quand les gens n'ont pas faim, comme présentement, les taux sont hauts, les gens sont un peu sur le côté, je ne fais pas de télé. Mais la télé est quand même assez très forte, ces gars du digital, où j'étais chez L'Oréal, là, c'était à la fin, quand je suis parti, je pense que c'était 60% des budgets étaient rendus en ligne. Hein. Donc, c'est des gros achats de télé. Mais dans ce cas-ci, pour positionner la marque rapidement, positionner qui on est, attirer les gens vers notre site pour la conversion. Tout le monde regardait le hockey en même temps. C'est rare de pouvoir voir ça. Là. Maintenant, les gens regardent, vont écouter ton podcast quand ils ont le temps. Mais là, maintenant que tout le monde écoute en même temps, puis Nesto était super bien positionné. C'était un des meilleurs moves, je pense, qui était fait. Il était initié avant que j'arrive. Moi, ça fait 2 ans. C'est initié, puis moi, j'ai refait les campagnes qu'on a continué à investir. Mais surtout, pour moi, ce qui est important, pour votre audience, je pense que ça va être clair de comprendre ça. C'est que souvent, les gens disent « Ah, je peux pas. » C'est difficile à mesurer, OK? Mais c'est difficile, mais en même temps, il y a des choses très claires que tu peux regarder. Donc, quand on est à la télé, tout ce qui est le direct, donc notre canal direct, donc les gens cherchent dans le browser, ils vont mettre Nesto. Sur le SEO, les gens cherchaient Nesto. Donc, ça, c'est ton meilleur canal de conversion. Et ce que je vois quand je suis en télé, en média traditionnel ou en média d'attention et de considération, même ça peut être en vidéo en ligne sur YouTube, etc., mon canal de conversion, tous mes indicateurs de conversion sont plus élevés. Donc, tu vois qu'il y a un impact entre...
Oui, c'est certain.
Dans l'ensemble évoqué, ça crée comme une confiance consommateur.
C'est certain.
Et ça vient comme exponentiel.
Les gens qui disent aujourd'hui que c'est plus calculable, c'est complètement faux. C'est complètement faux parce que tu es capable, si tu comprends moindrement ce que tu fais au niveau du marketing numérique, tu as des indicateurs excessivement clairs qui peuvent te dire si ta campagne a un impact positif ou pas.
Oui, puis on utilisait un système qui s'appelle Rockerbox. Donc, vous allez aller voir, puis si vous voulez, je pourrais vous mettre en lien. Je l'utilise plus parce que j'ai coupé les budgets média télé parce que le contexte a changé, mais j'aimerais ça refaire de la télé. Et ça nous donnait quand même, on était capable de voir avec, on rentrait les différents flights là, ou horaires de télé là, dans les différents canaux. Et c'était associé avec nos barèmes de conversion. Donc, on faisait des corrélations entre les deux. C'était quand même assez fort au niveau des modèles d'attribution des différents canaux. Donc, ça nous aidait à positionner la valeur de l'investissement en médias de awareness, dont la radio, la télé et la vidéo aussi. On avait beaucoup investi dans YouTube. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est possible. Les techs le font, mais il faut un bon stack technologique et de data là, pour le faire. Mais quelqu'un qui est bien installé, ça vaut la peine. Puis, tellement qu'on était fascinés par ça, on a même essayé de repenser le DirecTV, tu sais, les infomercials, là, parce qu'on savait que tel canal fonctionnait au niveau de la télé et à quel temps. Fait que là, on plaçait la télé comme un infomercial à un des moments précis dans des émissions précises et les taux de conversion étaient très bas. Donc, on avait poussé quelque chose qui... Moi, c'est ce que j'aime faire, hein, c'est provoquer le destin. Donc, on se disait, ben ça tente d'être intéressant. Là, présentement, on a changé notre stratégie. On est dans un mode de profitabilité à tout. Donc, à l'époque, on était dans un mode de croissance très rapide, de pénétration. Il y avait une vague qui roulait. C'est la même chose qu'on pouvait faire.
Bien sûr, des fois, tu es dans un contexte de prise de marché. Des fois, le marché te demande de serrer la ceinture et de générer un petit peu plus de profitabilité, et ça amène un point qui est quand même intéressant, Martin, cette fameuse idée de Brightwise Media. Donc, on le dit, en 2020, c'était le Canadien, 2020-2021, bon, les séries éliminatoires, beaucoup de gens écoutent la télé, il y a beaucoup de sous qui sont en circulation, le gouvernement réinjecte, donc c'est le temps de s'acheter un chalet, il y a une nouvelle hypothèque qui est prise, on prend le marché. On est en 2023 aujourd'hui, le 14 août 2023, la dynamique est différente. On est d'accord que le marketing, ça a le beau être les meilleures campagnes du monde. Le consommateur, à la fin de la journée, s'il a moins d'argent, ça risque d'impacter nos campagnes de conversion. Et toi, tu as vu ça un petit peu d'un autre côté. Est-ce que tu serais capable d'expliquer un petit peu à l'audience qu'est-ce que Brightwise Media et comment que ça a été créé?
Je vais te répondre sur deux volets. Okay? Donc, un volet sur lequel on a mis beaucoup d'énergie qui, à l'époque, quand on était dans Nesto, la marque, etc., on était en train de développer ce modèle-là. C'est le modèle B2B où groupe investeur, vous connaissez IG, là, IG Investor Group, là, c'est gros à travers le Canada, c'est très gros comme entreprise, utilise notre système pour traiter leurs hypothèques. Donc, on est un SaaS pour les compagnies, les banques, qui veulent faire la même expérience que nous, qui c'est quand même compliqué à faire. On peut louer le système et même les gens qui opèrent. Fait que ça nous a amené de la résilience dans notre modèle. Okay? Fait que ça, top, c'est bon, ça marche. Deuxième truc, là, après ça, on se dit, OK, là, je peux plus... Moi, j'aime les marketeurs doivent avoir des obsessions. Okay? Moi, j'aime ça en avoir une ou deux. Mon obsession, c'est avoir un CAC à certains... Je ne le mentionnerai pas ici, parce que la compétition va dire, OK, ben, j'ai dit ça, bon... Mais un CAC, un coût d'acquisition marketing très spécifique. On s'est dit avec l'équipe, on s'est dit, bon, comment on arrive à faire ça? Non, on s'est dit, OK, ben, on va diminuer tout ce qui est moins mesurable. On va optimiser notre performance. On a mis nos outils de conversion rate optimization. Fait que là, on s'est assuré que l'expérience client, tout ça était super clé. Bon, j'attendais pas encore le CAC voulu. On a commencé à regarder tous les vaches sacrées. Toutes les choses qu'on s'est dit en tant que marketeur, on peut pas faire ça. Fait que là, c'est le fun de se faire cette liste-là. Ils disaient, t'es prêt un à un, tu dis, OK, ça, je ferais jamais ça. Mais là, je suis dans un autre contexte. Récession, les taux montent, les clients sur ce sideline. Donc, comment je fais pour arriver à profitabilité? Parfait. Fait que là, on a regardé différents points, puis il y en a un qui s'est dit, ben nous, on n'est pas capable de vendre encore, on n'a pas tous les produits hypothécaires. Donc, on s'est dit, les leads qu'on acquiert, ben, si je les convertis pas, j'ai pas le produit, j'ai des pertes. Puis les gens, tu sais, vont chercher meilleur taux hypothécaire Montréal. Donc, je ne sais pas, moi, si c'est une personne qui a moins bon crédit, etc. Donc, je vais continuer à l'acheter quand même, mais je me suis dit, ben, pour pas perdre, ben, on a demandé à différentes institutions financières s'ils étaient à la recherche de leads, parce que quand même, Google, il y a une inflation du clic de 18%. OK, donc tout Meta aussi, où tu as vu Facebook, il faut vraiment être rendu très bon et connaissant pour optimiser la plateforme. C'est plus ce que c'était. Donc, ça reste que c'est performant comme outil, mais c'est plus ce que c'était. Donc, là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour réussir à arriver à notre objectif de CAC? Et là, on s'est dit, pourquoi pas vendre les leads que je ne suis pas capable de convertir aux compétiteurs? Les compétiteurs, ils ont dit, parfait, bon pricing, excellent. Donc, on est capable de transférer de Nesto à un compétiteur, ce qui est contre-intuitif. Là, par la suite, on s'est dit, ben, on a vu que les gens dans le marché, ils avaient de la misère à équilibrer leur CAC aussi, ce qui va être en profitabilité, les autres joueurs. Et ils nous ont demandé, hey, on veut aussi des leads. Là, j'en avais pas assez de leads. Donc, on a pensé, on s'est dit, qu'est-ce que le consommateur fait dans des moments plus où que chaque dollar compte? Donc, il cherche plus en ligne sur Internet, plus 12% année après année là, au niveau des recherches en ligne pour les mots clés d'hypothèque. Puis après ça, ils vont commencer à comparer. Donc, avant, les gens allaient vers la banque, c'était pas trop cher, puis ils disaient, OK, c'est correct. Mais là, les gens commencent à magasiner, visitent leur banque. 80% des gens vont rester avec leur banque. Là, c'est en train de descendre à 72% parce qu'il y a des alternatives. Donc, on s'est dit, OK, pourquoi pas faire un outil d'agrégation où les gens rentrent quelques informations, on leur donne tous les taux dans le marché, incluant Nesto. Puis, par la suite, ben, on vend les leads à ceux qui en veulent, c'est moins cher que Google. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi pas créer une compagnie qui s'appelle Brightwise Media, où on a le first party data, on est toute notre expertise de Nesto là, au niveau SEO, etc. Donc, on est capable de créer une solution qui est intéressante avec monmeilleurtaux.ca, Compare Mortgage Dottier au Canada anglais et par la suite, vendre les leads aux compétiteurs qui cherchent des solutions de réduire leur CAC. Donc, c'est un peu l'infinite loop en anglais.
Ben oui,
donc,
clairement. Ça devient le fameux flywheel.
Oui, exactement. Puis, tu sais, je ne peux pas en parler plus que ça parce que c'est quelque chose qu'on développe maintenant. On est en, comme M. Bezos dirait, day one. Mais on voit des signaux intéressants. Puis, je pense que dans des moments, l'être humain change quand ça fait mal, je vous l'ai dit. Hein. L'être humain change, c'est super beau. Ou, puis les gens le voient la vision, ou c'est quand ça fait mal. Donc, dans ce cas-ci, on devait trouver une façon d'être profitable. On a regardé tout ce qu'on pensait jamais faire de notre vie parce que c'est fou. Et on a décidé d'en prendre quelques-uns et de l'essayer. Donc, la méthode que tu utilises maintenant n'est pas la méthode de demain. Peut-être que demain, ça va être autre chose. Et une certitude que j'ai, que j'aimerais dire aux gens, là, aux plus jeunes marketeurs, là, c'est ne pensez jamais ce que vous faites maintenant. Là. Si vous voulez avoir des différents résultats, souvent les gens pensent qu'ils vont faire ça comme ça. Ils vont dire, on va optimiser, on va faire la conversion rate optimization. Mais c'est pas vrai. Il faut toujours essayer des nouvelles choses, provoquer le destin, parce que la même méthode va donner les mêmes résultats.
100%. Écoute, Martin, on voit que tu t'y connais énormément en marketing. C'est fascinant de discuter avec toi. Quelles sont les lectures, les ouvrages, les livres peut-être qui t'ont impacté au niveau marketing que tu pourrais peut-être partager avec notre audience?
Oui. Moi, j'aime beaucoup. J'écoute beaucoup plus en audiobook, podcast, parce que je pense que mon niveau d'attention n'est pas assez grand. mais c'est vrai, je l'ai accepté avec le temps. Puis, bon, il y a un livre, là, c'est un vieux livre, là, mais je pense que tout le monde doit lire ça. C'est Purple Cows by Seth Godin. Là.
Excellent.
Donc, si tu parles des ex, c'est facile, mais si tu as un produit, tu ne parles pas à ton audience, même si tu mets tous les médias du monde, ça ne fonctionnerait pas. Donc, le bon product market fit, les bons bénéfices, les bonnes offres pour convertir, c'est la base. OK? Fait que il faut que tout le monde pense à ça. Là. Même si, tu sais, des fois, j'entends les jeunes, ils viennent me voir, puis je suis encore jeune. Là. Ils me disent, ah là, je fais ça, là, mon stack. Là, parle-moi de ton offre. Il faut que tu la comprennes. Même si tu es en marketing digital, tu es un marketeur. Ça devrait même plus exister, marketing digital, parce que c'est partie maintenant de tous les jours. Donc, tu es un marketeur, tu dois comprendre le produit marché, tu sais ce que tu vends, tu vas écouter les sales calls, tu tu vas sur le terrain, puis tu vas faire du bon marketing. Donc, Purple Cause. Après ça, l'autre, c'est Getting Things Done. OK, c'est un vieux livre aussi, mais je trouve qu'il y a tellement de monde qui ont des idées, mais les gens qui sont accountable, qui livrent, ça, on dirait que j'ai de la misère à en trouver. Puis Getting Things Done, c'est de base pour t'aider à bien planifier. Puis ça m'amène à un dernier, là, Essentialism, là, qui est vraiment priorisé. Tu peux pas tout faire en marketing, surtout en growth. Les gens essaient de tout faire les canaux en même temps. Il faut que tu en choisisses un ou deux, puis un qui s'en vient en test. Donc, je pense que c'est des livres qui sont vraiment intéressants. Le dernier, c'est The Hard Things About Hard Things. Je pense Malik l'a positionné, qui est un de mes partners et amis maintenant. Là, ça fait 17 ans qu'on se connaît, là, qui est le CEO de Nesto. Ça, c'est bon pour... c'est difficile de faire des startups. Puis je dis à tous les jeunes là, qui ont le goût, qui veulent faire des startups, c'est difficile, mais c'est possible. Puis vous allez être une personne changée après l'avoir fait. Mais ça vous donne quand même des bonnes réalités que pour prendre des grandes décisions. Et des petites décisions, ça fait des petits résultats.
C'est 100% vrai. Martin Aubut, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a eu la chance, comme tu l'as mentionné, d'avoir Malik sur le podcast Hypercroissance qui nous parle de la belle histoire de Nesto. On a eu la chance de t'avoir aujourd'hui sur Commerce Elite que tu nous parles de la belle histoire marketing de Nesto, la belle histoire également que tu as fait avec L'Oréal. Bref, ça a été très généreux de ton temps. Et j'imagine, si on va savoir plus sur toi, je t'ai connu sur LinkedIn, ça serait le meilleur endroit pour te rejoindre, j'imagine?
Oui, LinkedIn, je réponds à tous les messages. Donc, même les cold calls.
On voit des idées aux gens qui nous écoutent.
Si tu avais vraiment une offre intéressante qui évolue sur le marché, je vais le prendre. Moi, toujours en mode, je suis très curieux. Puis tout change tellement vite avec l'intelligence bien artificielle sûr. Aussi, il y a beaucoup d'opportunités.
Fantastique. Martin Aubut, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commerce Elite.